Salut,
c'est la revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, green, meuf et féministe.
Ça va piquer, ça va gratter. On parle de l'actu, on fait des reportages, on dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique. On parle de lutte.
On prend la parole et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous êtes bien dans la revanche des hérissons sur Jet FM 91.2. Et en ce 16 décembre, eh ben, les hérissons ont choisi une thématique très originale, puisque ce soir, on va vous parler de cadeaux. Parce qu'en fait, on rentre, ou même on peut dire qu'on est rentré depuis plusieurs semaines dans cette vaste merde qu'est la période pré-Noël. Et on est un peu deg, parce qu'on a découvert en fait que plusieurs sources attribuent à George Sand, et oui, l'une des premières mentions du Père Noël dans la littérature française. En 1855, pour être exact, dans le tome 4 de l'Histoire de ma vie. Alors désolé Georges, nous on peut pas s'empêcher de faire rimer Noël avec capitalisme et christianisation des sociétés, même si pas que. Et puis un peu comme en période pré-menstruelle, et ben la période pré-Noël ça peut nous foutre le cafard avec ses traditions étalées sur les devantures de magasins, avec les crèches catholiques parfois vivantes affichées dans l'espace public et avec les injonctions à la consommation. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit que cette semaine, on avait envie de faire une émission sur les cadeaux pour nous aider à traverser ensemble cette période. Et donc ce soir, on va parler de notre rapport aux traditions, de notre rapport à faire et à recevoir des cadeaux, des non-cadeaux qu'on a malheureusement reçus ces dernières semaines. Et puis quand même, parce qu'il n'y a pas de raison, eh ben on va aussi se faire des petits cadeaux. Voilà, un beau programme. Et pour commencer, Mégo, tu vas nous parler des jouets de Noël étalés par milliers.
Oui, alors comme Noël arrive et qu'on parle des cadeaux, on vous a préparé un petit générique de pub de jouets de Noël. Et comme on le dit et on le répétera jamais assez, cette société patriarcale est sexiste et le commerce du jouet surfe complètement sur cette vague.
Voici des nouveaux sacs, colorés tous, ils sont super fashion, color me mine. Mets-leur plein de couleurs, ils sont uniques, c'est vraiment les plus beaux. Crée et modifie tes bijoux à l'infini avec l'atelier de création Color Splashers par Splash Toys. Mini délice, grâce à l'atelier et ses accessoires, tu peux créer plein de mini gourmandises à déguster ou à offrir.
Mais Nenuko sont des jumeaux.
Si tu donnes à manger à la petite fille, surtout n'oublie pas son frère.
Quel pleurnicheur!
Si tu couches la petite fille, encore une fois, n'oublie pas son petit frère.
La caisse enregistreuse Just Like Home.
C'est ouvert.
Elle a un micro, un scanner qui fait du bruit et un lecteur pour payer en carte. C'est comme dans un vrai magasin. Et elle peut même calculer. N'oublie pas de rendre la monnaie.
Avec Holographics, ouvrez les portes d'une nouvelle dimension. Devenez le maître des illusions et épatez vos amis sous votre pouvoir.
Trash Pack. Ouvre toutes les poubelles
et découvre 100 nouveaux trashies
super dégueu à collectionner et à échanger.
Ben 10 Omniverse. Dans la base de transformation, Ben se lance sur sa mini-moto ou tire de super missiles. Vite au sas de transformation.
Playmobil présente le commissariat de police. Oh les mains! Alerte, braquage à la banque.
Tu vas en profiter pour m'échapper. Chut, l'alarme.
Allume le projecteur.
Rendez-vous, vous êtes cerné.
En prison, et on vous a à l'œil, hein?
Playmobil, en avant les histoires.
Aïe, aïe, aïe. La dernière, elle est vraiment intense. Oui. Le commissariat de police Playmobil. J'en avais jamais entendu parler, je n'avais même pas imaginé.
Eh bien si, il y a plein de jouets comme ça. Et du coup, comme là on voit bien, c'est, la première partie c'était plutôt sur les jouets qui sont destinés aux petites filles. La deuxième partie, les jouets qui sont destinés aux petits garçons. Et oui, il n'y a pas de troisième partie. Et du coup, on voit bien que là, sur la première partie, dans les pubs qui sont destinées aux petites filles, c'est les critères de beauté, maternité, gastronomie qui invitent en fait les petites filles à s'occuper des enfants, du foyer et de leur apparence. Et dans la deuxième partie, c'est un peu plus les critères de autodéfense, attaque, pouvoir, contrôle. Crasse, alors c'est pas le bon qualificatif que j'emploie, mais on voit qu'il y a un petit peu ce truc où les garçons, on va leur faire que collectionner les poubelles et tout ça. Les petites filles, on va plus leur faire collectionner les petits trucs beaux et tout. Et en fait, tout ça pour tourner les petits garçons vers le modèle viril qui est promu par la société. Et avec en bonus, on flatte le commerce de la grande surface avec cette pub là où ça parle de la caisse comme un vrai supermarché et tout. Et la politique de répression via la figure du policier héros de Playmobil. Et donc en 2019, pourtant, il y a eu des tentatives d'évolution par l'industrie du jouet avec, comme nous informe Julia Foyce. Elle a fait une émission sur France Inter qui s'appelle Pas son genre. Et en fait, elle dit la tentative a été impulsée par le mouvement MeToo. Et ça a amené à la signature d'un label qui s'appelle Pour tous. Et la formation des professionnels a orienté la clientèle vers les goûts de l'enfant plutôt que vers le sexe de l'enfant. Et donc, on va vous passer un extrait de cette émission sur France Inter du 12 décembre 2019 et sur le féministe washing.
Pas. Mais attention quand même à cette pratique qui consiste à se repeindre en violet pour la galerie, à se donner de faux airs féministes à une époque où ça devient bon pour l'image en nous prenant en réalité pour des débiles profonds. Je vous donne deux exemples récents. Mattel s'est fait un très joli coup de pub à la rentrée en commercialisant les premières poupées non genrées. Elles ne sont ni filles ni garçons à la base. C'est à toi de le décider en fonction de ton envie du moment. Miser sur la fluidité sexuelle à une époque où l'on interroge les frontières du genre, c'est le buzz assuré. Ça a donc très bien marché. En tout cas, du point de vue de la com. Sauf que, quelques mois plus tard, était lancée une pétition contre le fabricant qui fait travailler ses ouvrières en Chine dans des conditions déplorables, cadences infernales, humiliations répétées, salaires ridicules. On a vu mieux pour la cause des femmes. Autre exemple, Monopoly, qui nous invente cette année le Miss Monopoly, où l'on oublie le haute forme, le cigare, le monoclé, la spéculation immobilière. La seule chose à acheter, ce sont des inventions mises au point par des femmes, et donc forcément éthiques, et donc forcément responsables, et je suppose douces et tout ce qu'on veut. Hein. Et les joueuses touchent plus chaque fois qu'elles repassent par la case départ pour compenser les inégalités salariales entre hommes et femmes. Alors, les gars, en fait, on ne demande pas une espèce d'aumône pour nous faire oublier la différence de salaire ou pour nous payer tout le boulot qu'on se tape à la maison. Je reprécise, hein, c'est pour cette émission, ça vaut le coup. 80-20, hein, 80% des tâches ménagères, c'est les femmes, 20% les garçons. Non, on aimerait plutôt des changements de fond, vous voyez. Alors, comment vous dire la prochaine fois? Vous nous bossez un petit peu plus le truc, ce serait mignon.
Voilà, donc c'était un échec.
Bah ouais, puis moi je trouve ça, cet extrait-là que tu nous as passé, il montre vraiment bien comment même le travail pour dénoncer les stéréotypes de genre et les inégalités, il est repris par les grosses marques et ouais, le capitalisme.
C'est une récupération, quoi. Mmh. Au même titre que le pinkwashing sur d'autres trucs.
Et donc Noël, c'est vraiment le moment où il y a cet étalage de... genrage de la société. C'est aussi un moment où il y a tout un tas d'injonctions familiales.
Oui, carrément. Et du coup, ça peut se traduire par plein de trucs, parce que ça dépend beaucoup de la famille d'où on vient aussi. Et du coup, on va vous faire écouter un petit extrait d'une copine qui racontait comment ça se passe, elle, la période de Noël dans sa famille en Espagne. Et les traditions qui sont liées à Noël.
Chez moi, c'est différent qu'ici. C'est un peu la course. C'est le stress. Depuis midi, tout le monde est totalement stressé parce que minuit arrive. Et du coup, il faut tout préparer. il faut tout raconter, genre tu prépares toute la nourriture, mais surtout ce que c'est important, c'est raconter 1000 fois si tu as 12 raisins. C'est méga important d'avoir 12, parce que si tu as 13, c'est pas bien, et si tu as 10, pas non plus, parce que chaque mois, c'est... Voilà, il faut que tu manges un raisin par mois, et sinon c'est beaucoup trop pas bien. Et du coup, c'est vraiment, tout le monde est totalement stressé à raconter 1000 fois ces raisins. Et il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui enlèvent les pépins, il y a des personnes qui enlèvent la peau, il y a des personnes qui mangent tout entière. Et juste avant minuit, c'est le moment maximum de stress où 10 minutes avant, toutes les mains commencent à crier en mode « Ah, il n'y a pas les temps, minuit arrive, le nouvel an !» Et du coup, tout le monde se met dans la table et raconte pour 10e fois ses raisins. Et tu vois bien si tu as bien enlevé toutes les pépins. Dans les cas, c'est que tu es une personne qui n'aime pas manger des pépins dans les raisins. Et finalement, tout le monde, toute l'Espagne entière regarde la télé. Et dans l'horloge qu'il y a à sol, dans la Puerta del Sol, il y a une énorme horloge qui va faire glong, glong, glong. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs horloges en même temps. Il y a gling, 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 gling. C'est pas celle-là. C'est après glong, glong, glong. Et du coup, il faut manger chaque seconde, manger une raisin. Évidemment, tu n'as pas le temps. Tu commences à voir à ta grand-mère qui commence vraiment à avoir de l'air, commence à rougir. Et après, ton frère commence à se moquer de ta grand-mère. Et après, tout le monde commence à rigoler. Mais pendant, tu continues à mettre des raisins dans ta bouche, 12 raisins, jusqu'à finalement, tu ne peux plus. Tu as la bouche plein de raisins, tu ne peux même pas respirer. Tu rigoles trop parce que ta grand-mère, elle ne sait pas si elle est toujours vivante. Et là, bim, c'est nouvel an. Nouvel an, et qu'est-ce qu'il faut faire quand t'as pas fini d'emballer tous tes raisins? Embrasser à toute la famille. Du coup, tu donnes des bisous, des raisins qui sortent de ta bouche, tu continues à rigoler, il y a beaucoup de gens qui se font pipi dessus. Du coup, c'est un moment intense. Et après, il y a les cidres et les champagnes juste après. Ma grand-mère met des bouts d'oreilles dans mes verres, des cidres. Et c'est obligatoire de le voir parce que ça donne de la chance et de la fortune, je ne sais pas quoi. Et du coup, apparemment, c'est bien pour toi. Et du coup, il faut voir ça. Et du coup, tu vois les verres et tu essayes de ne pas mettre les boucles d'oreilles dans ta bouche. Et du coup, il faut mettre les dents, cling, jusqu'à ça touche tes dents et après, tu as fini. Et du coup, c'est très traumatisant.
On vient d'écouter un extrait de l'interview d'Eva. Vous, ça vous fait penser à d'autres trucs au niveau des traditions familiales?
Ben, au début, j'avais envie de dire qu'en fait, j'aimais les traditions de Noël. Alors, c'est un peu bizarre, je sais. Et notamment en écoutant le truc d'Eva, là, on voit bien l'absurdité de ces traditions qui sont censées être bonnes pour elle et qui, en fait, ont l'air très désagréables. Là, son bruitage des bisous, ça me dégoûte rien que de l'écouter. Et voilà, du coup, moi, j'avais un petit peu honte de dire, bah, en fait, moi, il y a plein de traditions de Noël que j'aime bien et je vois bien que Noël, c'est la promotion de la surconsommation, la valorisation de la famille hétérosexuelle, tout ça. Et que, bah, franchement, le capitalisme, le catholicisme, la famille hétérosexuelle, c'est un peu le combo perdant. Mais bah, moi, j'ai réfléchi, j'avais un peu envie de gratter pourquoi est-ce que, quand même, il y a des traditions que j'aime bien à Noël. Voilà, je pourrais vous raconter ça si...
Et du coup, t'as trouvé ce que t'aimes bien dans...
Bah, en fait, d'abord, je me suis dit, tu vois, me promener dans une ville avec toutes les lumières, les décorations, tout ça, et ben, en vrai, j'aime bien les guirlandes vertes et bleues, j'aime bien les chouettes illuminées, j'aime bien les gouttes de pluie, là, illuminées qui tombent des fils électriques. Alors, je sais que ça coûte un fric fou. Le budget, c'est 603 000 euros pour la ville de Nantes, presque 2 millions à Paris. Ça, c'est par année, hein. C'est des chiffres de 2017. Et du coup, bon, ils pourraient vraiment utiliser ce fric pour autre chose. Mais en fait, je pense que ça me rend contente parce que ça me permet de me promener dans un centre-ville qui n'est pas tout froid, tout gris, tout propre, tout lisse. Et où, en fait, les seules lumières qui ressortent, c'est les lumières des publicités de JC Déco. Donc déjà ça, je me suis dit, ah ok, peut-être c'est pour ça. Et ensuite, j'ai réfléchi à ce truc de, par exemple, la course aux cadeaux. Et ben moi, en fait, j'adore réfléchir à quel cadeau je vais pouvoir faire à ma petite cousine Léna. quel cadeau subversif, tu vois. Alors je me dis, est-ce que je vais lui offrir un binder? Est-ce que je vais lui offrir King Kong Theory? J'adore parce que, en fait, Noël, c'est aussi un moment où j'ai des discussions avec ma mère sur comment on essaie de dégenrer les cadeaux. J'aime bien hésiter sur est-ce que je prends Stone Butch Blues pour mon frère ou est-ce que je prends un bouquin de James Baldwin. J'aime bien voir mon frère qui déballe ses vernis qu'on lui a offerts devant les yeux horrifiés de ma tante. Et du coup, je me sens un peu, vous voyez, en mission. Et ma mission, elle est légitime parce que, je sais pas, on est dans l'institution de Noël. Et bon, après, c'est vrai qu'en fait, moi, je viens d'une famille blanche de classe moyenne et que je suis de loin la plus pauvre de ma famille. Donc, en vrai, il n'y a jamais eu de pression à la thune pour faire des cadeaux. Et puis, on se répartit les cadeaux entre nous. Du coup, on a eu des grosses discussions avec mes frères pour savoir qui se charge de quel cadeau, comment on répartit les rôles dans ma famille, tout ça. Et du coup, ça, c'est vraiment grâce au féminisme qui m'a donné des outils pour pouvoir amener ces discussions-là dans ma famille. Mais du coup, ça fait que ça m'a construit un autre rapport à Noël. Et ça, voilà, ça, je kiffe. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que ça vous fait ?
Bah, moi, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est vrai que moi, j'aime bien me dire quel livre je vais leur offrir pour que ce soit pas trop brutal pour eux de leur faire un peu découvrir aussi ma manière de vivre et de penser, mais que, enfin, juste qu'ils puissent amener des petits éléments comme ça, manière de rien, qu'ils soient déguisés en cadeaux, parce que c'est le moment où du coup on pense à faire des cadeaux aussi aux gens et que sinon, peut-être qu'on n'en ferait pas, quoi. Enfin, à certaines personnes, du moins.
Ouais. Du coup, moi, j'ai beaucoup moins d'engouement pour Noël que vous. Parce qu'en y réfléchissant aussi, c'est souvent le rapport à Noël, c'est vachement lié à l'histoire familiale. Que moi, par le passé, Noël, ça a été beaucoup des trucs de engueulade, un de mes anciens beaux-pères qui pétait tout à Noël et que... ça fout un peu le sbeul dans Noël. Ma belle-mère qui tient des propos racistes. En fait, avec les années, ça a été de pire en pire récemment. Je me suis dit que, en fait, je voulais appuyer ça sur ce qui m'embête dans Noël, ce qui me fait chier, c'est toute cette histoire de, au nom de la tradition, en fait, faut mettre les conflits interpersonnels de côté. Parce que Noël, c'est la paix dans le monde, c'est tout le monde est ensemble, tout le monde est content. Et que, en fait, si quelqu'un vient casser ce cadre, ça prend des proportions que ça ne prendrait pas sur un autre temps social. Et donc, au nom de la tradition, c'est un peu la loi du silence, où il ne faut pas nommer tout ce qui pourrait créer des divisions dans l'unité familiale. Et je trouve que ça peut prendre aussi des proportions dangereuses quand, au sein de la famille, il y a des violences, des agressions, des viols, etc. Du coup, beaucoup moins optimiste.
Grave. Mais moi, en réfléchissant aussi à quel était notre rapport à ces traditions de Noël et notamment à la tradition familiale, et moi, je me suis dit que, en fait, je supportais aussi Noël et que j'aimais ce moment-là parce que, parce qu'en fait, je sais que pendant que je suis là-bas dans ma famille ou quand je reviendrai, en vrai, je pourrais débriefer avec mes potes et mes camarades transpédéguines sur ce qui s'est passé. Et du coup, on pourra rigoler sur l'injonction à l'hétérosexualité, bitcher sur le regard horrifié de ma tante face à ces vernis que reçoit mon frère, me marrer parce que ma grand-mère, elle me dit... T'as toujours pas trouvé un gentil garçon et que du coup ça met ma mère et ma cousine dans tous leurs états et qu'elle lui demande si elle est pas restée bloquée dans les années 20. Et voilà, et du coup je me suis dit je pense que c'est aussi parce que j'ai eu des années d'entraînement avec plein d'outils que j'ai pu forger vraiment grâce à mes camarades transpédéguines et féministes et que en fait je me sens forte de la distance entre Noël aujourd'hui et Noël il y a des années. Et que si j'ai pu amener toutes ces discussions et ces prises de tête dans une de mes familles, qui est ma famille nucléaire, en vrai, c'est grâce à mon autre famille. Et c'est grâce à ma famille de folles, de butch, de femmes, de tapettes, de camionneuses, de PD chouchou, de meufs vénères. Et voilà, et aussi que par rapport à ce que tu disais, il y a un truc que je me suis dit, c'est qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui ne peuvent pas se poser la question d'aller passer Noël en famille parce qu'ils ont dû quitter leur pays, leur famille et que l'État français les empêche de traverser les frontières. Et voilà, et que comme tu disais, bah, en fait, il y en a aussi d'autres qui ont trouvé le courage à fond de plus aller dans leur famille parce qu'en fait, c'est un lieu avec trop de violence et que parfois on n'a pas le choix et que du coup, il y a aussi tout ça qui entoure ce moment de tradition, quoi.
Ouais. Bah, c'est de l'exclusion aussi, Noël, quoi. Enfin, ça veut dire que pour toute personne qui sort du cadre familial ou de... Il y a peu de choses. Il y a quelques trucs qui sont organisés par des individus ou des groupes, mais c'est quand même très restreint, quoi.
Carrément. Et alors moi, quand même, le 24 au soir, tous les 24 au soir, vers 17-18 heures, je dois le dire, j'allume Radio Cayenne, qui est une web radio nantaise, et tous les ans, qu'on peut écouter en ligne, et tous les ans, ils et elles font une soirée de Noël, et du coup, en vrai, ça me donne de la force pour aller au combat ensuite.
Et vous pouvez les écouter mardi prochain, je pense, toute la journée là, pour la mobilisation. On peut les retrouver sur Internet, vous tapez Radio Cayenne et vous allez pouvoir les écouter.
Et ben, moi, du coup, sur ce que tu disais sur les injonctions et le fait que, vu que c'est Noël, il y a moins de possibilités aussi de passer outre des traditions, machin. Ben, moi, il y a une tradition dans ma famille que je n'ai pas encore réussi à éviter, c'est la messe de Noël. Parce que du coup, quand tu écoutes Radio Cayenne, moi, je suis à la messe. Et d'ailleurs, je vais faire ça peut-être. Je vais prendre des écouteurs et je vais écouter ça pendant la messe ce 24 décembre.
Trop bien.
Et en fait, ça fait quelques années que j'ai plus du tout envie d'y aller et que à aucun moment autre dans l'année, quand je suis avec ma famille, ils m'entraînent à aller dans la messe, même si eux, ils y vont des fois. Et c'est vraiment à ce moment-là, c'est très dur pour eux. Ce serait très dur pour eux d'accepter que je vienne plus, quoi. C'est comme si je sais pas, une rupture avec l'enfance ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, j'y vais, je prends un bouquin, je suis au dernier rang et je profite du vin chaud à la fin. Mais voilà, j'ai pas encore franchi ce cap-là.
Tu peux essayer de faire une retransmission de la messe de Noël à Radio Cayenne. Et elles vont être contentes.
Ouais, des chants et tout, là.
Ouais, puis ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la question de l'exclusion et puis de c'est quoi les coûts, en fait, entre participer à certaines traditions et puis à un moment donné, faire rupture. Et du coup, bah, comment chacun, chacune, on évalue quels sont les coûts et quels sont les risques qu'on a envie de prendre.
Après, moi, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais là par rapport au soutien extérieur. En fait, moi, je trouve qu'à des moments, c'est compliqué parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas, même des fois dans les groupes d'amis ou quoi que ce soit.
Bah, on peut profiter qu'on est à la radio pour lancer un appel. Si vous avez des stratégies pour faire face aux traditions familiales de Noël, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter sur notre mail à la revanche-des-zérissons@riseup.net.
Et on va peut-être passer à la suite.
On continue en musique ?
Oui.
Alors, on va écouter une musique de Domo Wilson, I Wanna Be Me, qui est une rappeuse afro-américaine. On écoute tout de suite Domo Wilson.
They tell me, take off those pants, put on a dress, get some help. They don't understand that I'm not a man, wanna be myself. Take out those braids, girls, don't get phased and tell me act like a lady. But I'ma be me, believe me, because that's how mama raised me. I wanna be me, who I really am, not who you want me to be. I love who I am, yes, I'm different and that's what I want you to see. I'm not like other girls, I don't like tight jeans, I don't wear tight shirts. I don't like wearing heels, I don't like how it feels, I don't wear tight skirts. I am myself and that's never gonna change. I'ma be myself and I'ma love myself no matter what you may say. Cause I'm gay and proud and I'm loud. Being fake is not my style. Go ahead and hate from the other side cause we running things right now. All my life, people told me like just dress like a girl. Try to date another boy, he might bring you joy. He really might rock your world, you haven't found him yet, nah. Haven't found the right one. Your kid needs a father figure in his life. Hey, he can father your son. My son has two moms, loud and proud. And no, I am not ashamed. And he will take up for his mamas if you slander our name. LGBT, stand up proud. We got an army this way. It's not a choice to live this life. You know I always been gay. They say,
go get saved. Ask the Lord to make you new. Ask for forgiveness for all the sickly things you do. God doesn't love you. Come sit down. Open up. Let's make you pray. If God didn't like homosexuals, then why he make me gay? He made us perfect. Swear y'all choose what y'all like. Having premarital sex, but wanna call me a dyke. Cheating on your wife's Lord's name in vain. Disrespecting your parents, not making this up. This is all in the book of the Ten Commandments. I wanna be me, who I really am, not who you want me to be. I love who I am. Yes, I'm different, and that's what I want you to see. I'm not like other girls. I don't like tight jeans. I don't wear tight shirts. I don't like wearing heels. I don't like how it feels. I don't wear tight skirts. I am myself, and that's never gonna change. I'ma be myself, and I'ma love myself no matter what you may say. Cause I'm gay and proud, and I'm loud. Being fake is not my style. Go ahead and hate from the other side, cause we running things right now. All my life, people told me, like, just dress like a girl. Try to date another boy, he might bring you joy. He really might rock your world. You haven't found him yet, nah. Haven't found the right one. Your kid needs a father figure in his life. Hey, he can father your son. My son has two moms, loud and proud, and no, I am not ashamed. And he will take up for his mamas if you slander our name. LGBT, stand up proud. We got an army this way. It's not a choice to live this life. You know I always been gay. I wanna be me, who I really am, not who you want me to be. I love who I am. Yes, I'm different, and that's what I want you to see. I love who I love. I wear what I wear. I'm proud to be me. No longer living in the dark. I'm proud to be free.
Vous êtes toujours dans l'émission La Revanche des Hérissons sur Jet FM 91.2. Et si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, sachez que nous sommes dans une émission spéciale cadeau. Voilà, et alors on va continuer avec une rubrique un peu spéciale qui est une rubrique « On n'a pas de cadeau ». Parce que ces derniers mois, le gouvernement, comme c'est bizarre, ne nous a pas fait de cadeaux. Et il y a notamment 3 paquets piégés sur lesquels on voulait revenir.
Oh, ça sentait le piège à rat.
Alors, le premier paquet piégé, c'est la réforme de l'assurance chômage, qui est mise progressivement en application entre novembre 2019 et avril 2020. Donc on est en plein dedans. L'objectif de la réforme, c'est de faire des économies, avec grande surprise. Moi, ça me fait toujours un peu rire quand le gouvernement annonce des objectifs comme ça, parce que, petit 1, j'ai même pas idée de ce que ça représente, leur objectif d'économie, c'est 4,3 milliards d'euros. Je sais juste que c'est beaucoup, mais je me représente pas trop ce que c'est. Et 2, par contre, ce que je sais, c'est que ça sera pas vraiment mes économies à moi, ni celles des plus précarisées. Nous, en fait, on verra plutôt la différence en négatif sur nos comptes bancaires. Voilà. Et alors, le principe de cette réforme, c'est faire en sorte que ce soit plus difficile de percevoir le chômage et augmenter la précarité. C'est pas moi qui le dis, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
Voilà, pour la précarité. Tu avais d'ailleurs un petit truc à nous dire à propos des cadeaux de Muriel Pénicaud.
Oui, parce qu'en fait, je suis tombée sur un article qui disait que, récemment, Muriel Pénicaud, elle a fait lever l'amende pour fraude sociale d'un chef étoilé. Et en fait, il a été rappelé 3 fois par l'inspection du travail pour fraude sur le décompte du temps de travail de ses salariés. Et il a écrit à Muriel Pénicaud, parce qu'on lui a demandé, enfin, l'inspection du travail lui demandait 13 000 euros d'amende. Et Muriel Pénicaud lui a répondu « Je tiens d'abord à vous féliciter chaleureusement pour vos 3 étoiles au guide Michelin. Je demande au directeur général du travail, au directeur régional d'Occitanie, de me tenir informé de l'évolution de la situation. » Et du coup, demande qui s'est soldée par un simple avertissement. Et donc, Muriel Pénicaud a fait cadeau de 13 000 euros d'amende parce qu'il abusait de son rôle de patron, en fait, vis-à-vis de ses employés.
C'est super parce que, par ailleurs, elle ne fait vraiment aucun cadeau aux chômeuses et aux chômeurs. La réforme de l'assurance chômage, c'est plutôt le musée des horreurs. Alors d'abord, ce sera plus compliqué d'ouvrir des droits au chômage. Avant la réforme, on pouvait toucher l'allocation chômage si on avait travaillé au moins 4 mois sur les 28 derniers mois. Ça fait environ 1 jour sur 7. Après la réforme, donc aujourd'hui, il faut avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois, soit 1 jour sur 4.
Ensuite, ça va être plus difficile de recharger ses droits. Donc, avant la réforme, si Mousse avait le droit à 1 an et demi de chômage et en fait qu'il reprenait le travail au bout d'un an, et ben, il lui restait 6 mois d'indemnisation qu'il pouvait reporter s'il travaillait donc 1 mois. Et puis son mois en plus de travail, il lui ouvrait de nouveaux droits. Et en fait, aujourd'hui, Mousse, il devra travailler pendant au moins 6 mois pour pouvoir reporter ses droits et recharger ses droits au chômage. Et puis ensuite, l'allocation chômage, elle va être diminuée, sinon ce ne serait pas drôle. Et du coup, Jacqueline, si elle travaille par exemple les 2 premières semaines du mois, qu'elle touche 740 euros, avant, son chômage, il était calculé sur le salaire moyen perçu lors des jours travaillés au cours de sa période de travail. Ça veut dire que là, on calcule son mois, 740 euros sur les premiers 15 jours, fois 2, ça fait 1480 euros sur le mois, et donc elle perçoit une allocation chômage de 920 euros. Aujourd'hui, le montant de l'allocation chômage, il est calculé à partir du salaire mensuel moyen, quel que soit le nombre de jours travaillés. Du coup, ça veut dire que le salaire de référence pour le mois de Jacqueline, il est de 740 euros, et donc ça veut dire que son chômage, il sera de 420 euros. Et bien sûr, ces mesures, elles désavantagent qui ? Eh bien, encore une fois, les salariés plus précarisés qui enchaînent les CDD et les périodes de chômage, les travailleurs en intérim, donc qui ? Eh bien, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQI, voilà, les plus pauvres. Voilà, on n'aime pas trop ce paquet piégé, hein ?
Et je t'apporte justement le cadeau qu'il te faut.
Pour moi ? Grand merci, messire Robin des Bois. Hé ! De quoi je l'ai, hein?
Moi, je trouve que tu ressembles pas tellement à Robin des Bois.
Mais c'est vrai, quelque chose te manque. Oh, où avais-je la tête? Tiens, prends ça.
Oh mince, alors mince! De quoi ai-je l'air maintenant?
Alors, moi, en paquet piégé, je vais vous parler de la réforme de l'AME. En effet, dans le projet de loi de finances 2020, qui a été déposé le 21 novembre, le gouvernement prévoit de restreindre l'accès aux soins pour les ressortissants étrangers. D'abord en instaurant un délai de 3 mois aux demandeurs demandeuses d'asile, 3 mois à partir de la date du dépôt de la demande pour accéder, alors non pas à l'AME cette fois-ci, à la protection universelle maladie, qui est une autre couverture maladie. Donc 3 mois sans remboursement de soins. On peut se poser la question parce que en fait, la protection universelle maladie est distinguée de l'AME. L'AME va plus concerner les personnes qui sont en situation illégale sur le territoire français. Et une réduction de 12 à 3 mois après le rejet de la demande. C'est-à-dire qu'ils peuvent se trouver à avoir encore leurs droits en cours. Maintenant, seulement 3 mois au lieu de 12 si leur demande d'asile a été rejetée. Ensuite, en restreignant l'accès à l'AME, donc l'AME c'est l'aide médicale d'État, et ça concerne toute personne qui peut justifier de plus de 3 mois de présence sans interruption sur le territoire français. Donc il faut le prouver ça matériellement avec des papiers qui en témoignent. Et il faut que ces personnes aient un plafond de ressources annuel inférieur à 8 951 euros et elle est valable 1 an. Reconductible. Elle est applicable à la personne qui en fait la demande, ainsi qu'à sa ou son conjoint et ses enfants. Et le but de cette réforme, c'est de faire baisser les frais qui s'élèvent aujourd'hui de 900 à 934,4 millions. Et alors, voilà, nous, ça ne nous évoque rien parce que ça fait des gros chiffres et tout comme ça. C'est aussi le chiffre qui est présenté dans la plupart des médias. Sauf qu'en vérité, ça représente seulement 0,5% du montant total des dépenses de santé. C'est rien.
Ouais, c'est rien du tout. Ouais.
Et donc, le but aussi de cette réforme, qui est appuyée par la droite, l'extrême droite et le gouvernement Macron, c'est de faire baisser le tourisme médical et l'immigration illégale. Et alors ça, le tourisme médical, ça se base sur une espèce d'enfumage sur des arguments racistes qui diraient qu'il existe une filière venant des pays de l'Est et où les gens viennent en France pour se faire soigner et profiter de l'AME. En fait, ils n'ont absolument pas réussi à le prouver. Et du coup, c'est juste dans leur discours. Et le corps médical souligne également sur l'ensemble des personnes concernées par ce dispositif. En fait, dans la réalité, il y a peu de personnes qui en font usage. La première année, par exemple, ça ne concerne que 12%. Donc, on est beaucoup, bien loin du profitage qui est dénoncé par le gouvernement. Et le décret n'est pas encore publié avec le nom des soins. Mais les personnes vont devoir passer par la sécurité sociale, faire une demande au préalable à la sécurité sociale, afin que ça soit validé pour tout ce qui est considéré comme non urgent. Mais en fait, ça va mener à ce que de moins de personnes fassent appel à ces dispositifs sociaux. Tout ce qui est urgence va quand même être traité, mais pour des soins en fait curatifs, de santé, enfin je sais pas, des personnes qui ont une maladie qui nécessite des médicaments régulièrement et tout ça, ça risque de compliquer en fait le soin. Et ils veulent, je vais finir là-dessus, développer un fichier centralisant les informations concernant les personnes qui entrent dans ce dispositif. Un fichier qui s'appelle TRAM AME et multiplier les contrôles, notamment contre les multi-hébergeurs. Alors les multi-hébergeurs, c'est les personnes chez qui, en fait, pour pouvoir demander l'accès à l'AME et tout, il faut avoir un domicile. Donc, si on n'a pas de domicile, il faut au moins une adresse postale. Du coup, des fois, des personnes se portent, adresse postale, etc. Du coup, les personnes qui hébergeront plusieurs personnes vont être ciblées et les personnes ayant une grosse consommation de médicaments.
Oh bah vous parlez d'un cadeau.
Moi, je vais rebondir sur une réforme qui touche aussi la même population, du coup. Depuis le 4 novembre, elle a été mise en place et elle concerne le fonctionnement de la carte bancaire des demandeurs et demandeuses d'asile sur laquelle est versée l'ADA, donc l'aide aux demandeurs d'asile. Et donc, à partir du 4 novembre, depuis le 4 novembre, il est plus possible pour EL de retirer de l'argent en liquide, empêche les personnes de consommer dans des épiceries et friperies solidaires, par exemple, ou dans tous les lieux alternatifs à la grande consommation et qui leur proposent aussi des prix bien plus réduits que dans des supermarchés ou dans d'autres lieux. Le deuxième point de cette réforme, c'est que ils et elles ne pourront plus effectuer que 25 paiements par mois, donc même pas un paiement par jour. Et du coup, ça réduit complètement les achats parce qu'ils vont devoir acheter en pensant stratégie plutôt qu'en pensant nécessité. Parce que par exemple, acheter du pain dans une boulangerie, ça représente un achat, mais ça représente que quelques euros. Et du coup, ils vont devoir penser beaucoup plus capitaliste, quoi. Et donc, au-delà de 25 paiements, s'ils dépassent les 25 paiements, il y a une taxe qui leur... il y a une taxe qui leur enlève 50 centimes par paiement en plus. Donc voilà, c'est encore une façon de resserrer à la gorge les personnes en demande d'asile.
C'était la rubrique « On n'a pas de cadeau », mais on trouvait quand même important de expliquer plus ces réformes qui ont été quand même peu médiatisées. Mais on va continuer cette émission en se faisant des cadeaux peut-être.
Ouais.
Et oui, et un cadeau. Un cadeau, quel cadeau ?
Et c'est un beau cadeau d'Élise qu'on a reçu à la revanche des hérissons de Grenoble qui, après tous ces paquets piégés, nous remonte le moral.
Chers hérissons, pour votre émission sur les cadeaux, je voulais vous faire un cadeau. Enfin, je voulais vous transmettre les cadeaux qu'en ce moment, plein de gens nous font. Dans ce climat de lutte sociale et politique, en France et au niveau international, de nombreuses personnes sortent tous les jours dans la rue, se mettent en grève. subissent la répression policière, parfois jusqu'à la mort, pour nous, pour nous offrir un monde meilleur, pour défendre nos droits, nos libertés et pour plus d'égalité. À Hong Kong, au Chili, au Liban, en Iran, en Algérie, en Argentine, en France, des personnes manifestent. Pas pour elles seules et leur confort individuel, mais pour le peuple. Pour toutes et tous. Les femmes et les minorités de genre sont particulièrement combatives. Ces derniers jours en France, pour lutter contre une réforme des retraites qui condamne une fois encore les plus précaires à encore plus de pauvreté.
Il y en a assez, assez, assez de cette société qui ne respecte pas les femmes, les trans et les lesbiennes. Il y en a assez, assez, assez de cette société qui ne respecte pas les femmes, les trans et les lesbiennes.
Alors que le salaire moyen aujourd'hui pour une femme à la retraite est de 1 000 euros, contre 1 800 euros pour les hommes, la réforme, que ce soit dans le public ou dans le privé, en comptabilisant le salaire ou le non-salaire sur toute la carrière, viendra baisser de plusieurs centaines d'euros le salaire de chacun et de chacune. Les femmes et les minorités de genre, ayant bien plus que les hommes des périodes de chômage, seront d'autant plus touchées. Sans compter qu'il n'y aura plus de semestre alloué aux femmes pour chaque naissance et que, si ces dernières divorcent, elles seront privées de la pension de réversion de leur ex-mari.
On vaut mieux que ça, mesdames, ils veulent nous ignorer. On va se mobiliser jusqu'à l'égalité. Allez, venez, mesdames, descendre dans la rue. On attaque nos droits, on ne se taira plus. Qui est plus fort, mesdames, reprenez notre chant. C'est pour l'égalité et contre le temps passant.
La colère gronde. La colère gronde. Dans une France où, sous couvert de laïcité, les hommes se permettent d'expliquer aux femmes de quelle manière elles doivent se vêtir, de dire qu'ils sont fatigués, lorsque des féministes appellent au boycott du dernier film de Polanski, réalisateur accusé de plusieurs viols sur mineurs. La colère gronde. La colère gronde.
Police de l'État, police du patriarcat. Police de l'État, police du patriarcat.
La colère qui gronde en nous depuis des décennies a pu s'exprimer de manière publique et trouver un écho grâce au mouvement MeToo et Balance ton porc. Ne plus être seule. Ne plus se sentir coupable. Trouver de la solidarité. Construire de la sororité. Pouvoir dire haut et fort et à l'unisson que le coupable ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Le coupable c'est toi, c'est la police, c'est la justice, c'est l'État, la société.
À nos sœurs assassinées, de leur sang détaché, à nos sœurs assassinées, on vous oubliera jamais, le coupable c'est toi. Le coupable, c'est toi. C'est la police. C'est la justice. C'est l'État, la société. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi.
côte à côte dans la rue, pour crier que non, sa main n'a pas dérapé sur ma gorge. Sa voiture n'a pas rencontré malheureusement ma route, ou ma tête n'a pas heurté malencontreusement le mur. Mais que nous sommes victimes d'un féminicide, et que nous sommes tués parce que nous sommes des femmes. C'est tout ensemble, unis et soudés, à travers le monde entier, que nous voulons lutter contre cette société patriarcale. Nous voulons nous offrir, et offrir à chacune, une société juste et égalitaire. Merci à toi, à vous, à nous, pour ces beaux cadeaux. Et gros bisous, bisous.
Nous sommes les femmes, nous sommes telles, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes les femmes, nous sommes telles, les féministes et radicales et en colère.
Merci Élise.
Merci Élise, vous êtes toujours dans La Revanche des Hérissons, une émission sur les cadeaux 91.2 sur Jet FM. Toi, t'aimes faire ou recevoir des cadeaux?
Moi, j'aime bien faire des cadeaux. J'aime bien me promener et voir quelque chose, enfin avoir une idée d'un coup de « Ah tiens, ça pourrait correspondre trop à... » Enfin, voir quelque chose qui me fait penser à une personne et du coup lui offrir. Mais j'aime bien aussi prévoir de faire un cadeau à quelqu'un et du coup d'essayer de chercher tous les petits éléments les plus minutieux pour que ça corresponde bien et réfléchir très longtemps au truc que je vais offrir. Mais surtout, c'est plutôt à des gens que j'aime beaucoup et que je connais, quoi. Que je connais bien.
Ouais, pas les cadeaux imposés par les conventions sociales, comme le cadeau à mamie.
Ouais, c'est ça.
Alors que tu ne sais pas vraiment ce que tu as envie de partager avec mamie, par exemple.
Ou que tu ne connais pas trop mamie, en fait. Ouais. Bah oui, et après recevoir des cadeaux, moi je trouve que ça fait toujours plaisir, quoi. Mais c'est pareil, si c'est des cadeaux qui sont de quelqu'un que tu connais pas, de ta grande tante ou je sais pas qui, que tu connais pas, ça fait toujours très bizarre de dire ah, merci. Et qu'elle t'offre par exemple des trucs de maquillage alors qu'elle a toujours pas compris que, que je savais même pas m'en servir ou des trucs comme ça ou des parfums. Ouais, chaque fois ça me fait un peu. Ça me fait un peu envie de plus trop la voir, quoi. Mais après, les cadeaux des personnes aussi qui me connaissent, c'est chouette. C'est toujours chouette de recevoir quelque chose. C'est comme une surprise, quoi. C'est chouette. Et toi ?
Moi, je me suis rendu compte en préparant l'émission que, en fait, c'est plus facile pour moi d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. Parce que je trouve recevoir des cadeaux, moi, ça me place dans une position de vulnérabilité, alors que j'adore ça. Et du coup, j'ai essayé de penser à quels étaient, par exemple, les cadeaux qui m'ont marqué. Et je pense, un cadeau qui m'a marqué, c'est un pull que m'a offert ma mère il y a quelques années. Et c'était un beau pull. Je pense que c'était le premier vêtement qu'elle achetait pour moi dans un magasin de gars. Et donc, il y avait un beau col relevé comme ça. Et je me suis dit, OK, en me faisant ce cadeau, en fait, je m'en foutais du pull. Mais elle me signifiait un truc de « j'ai compris que tu t'habillais pas en fille, en fait ». Et ça m'a fait super plaisir. Et voilà, du coup, j'ai l'impression des cadeaux qui font des petits clins d'œil à qui je suis et qui montrent que les autres y sont attentifs. Je pense que à la fois, j'aime bien en recevoir, à la fois, je me sens en vulnérabilité. Et en tout cas, c'est sûr que les cadeaux, que moi, j'adore offrir des cadeaux. Et j'adore ce que tu disais, la pensée à quelqu'un et me dire oh, « vas-y, j'ai envie de partager ça pour cette personne » ou « je sais pas, cette personne est dans bidulette et dans une période super stressée, elle a même pas le temps de se faire à manger. » Et du coup, moi, mon cadeau, c'est de lui préparer un petit repas. Voilà. Mmh. C'est un peu ces questions de comment on fait attention et on peut partager des choses.
Oui.
Et justement, moi, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un coup de cœur.
La revanche des hérissons.
Coup de cœur.
Coup de cœur.
Coup de cœur.
Alors, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'extrait d'un livre merveilleux qui m'a retourné le bide et les tripes. Et ce livre, c'est « N'essuie jamais de larmes sanglantes » de Jonas Gardel.
Ça faisait plusieurs semaines que j'arrivais pas à lire et j'arrivais pas à trouver un bouquin qui me tienne. Et du coup, j'ai demandé conseil autour de moi. Et mes amis aux lectures avisées m'ont recommandé ce bouquin-là. Alors, il fait plus de 800 pages, mais je l'ai avalé en quelques jours. Il est dur. C'est un bouquin qui est dur, qui est triste, qui est beau, qui est drôle et qui parle d'une bande de gays en Suède dans les années 80, au moment où des milliers de gays meurent du sida. Et il parle de nos histoires, de nos communautés, de nos amours et de Noël. Paul aspire profondément la fumée avant de la laisser s'échapper par le nez. « Mais mon pauvre chéri, si je compte bien, ça fait que quelques semaines que t'es à Stockholm. Tu vis où ?»«
Chez ma tante. »
Rasmus rougit. « Pourtant, je ne t'ai vu nulle part, » poursuit Paul. Ben, je connais encore personne, mais je suis allée au Timi. Et je suis membre de la RFSL.
Quoi ?
Tu ne connais personne ? Mais quelle chance de rencontrer Paul ! Tu vas voir, il va te chouchouter dans cette horrible grande ville. Quel Paul ? Paul souffle, froissé. Comment ça, quel Paul ? Ben moi, tiens ! Qui tu croyais ? Bon, comme t'es un petit poussin divin du Värmland, je te pardonne. Mais maintenant, t'es au courant. Je suis Paul. Le Paul, la mère Teresa des PD si tu préfères, et nettement mieux maquillée que l'original. Une voiture ralentit près d'eux, mais pas la SAP de tout à l'heure. Le chauffeur les scrute d'un regard qui révèle un intérêt. Pour commencer mon chou, tu vas passer le réveillon de Noël chez moi. Rasmus est distrait par la voiture stationnée à côté d'eux. Putain, mais il a le feu au cul celui-là. On parlait de quoi ? Ah oui, le réveillon en famille. Bah bien sûr que je vais le faire. Il faut toujours fêter Noël en famille. Le tout, c'est de définir la notion de famille. Tu ne crois pas ? 18h, a dit Paul au téléphone. Mais comme Rasmus trouve ça gênant d'arriver pile à l'heure, il traîne dans l'appartement vide, place Sankt-Eriksplan. À moins le quart, il est non seulement à la bourre, mais il prend conscience qu'il n'a pas la moindre idée de l'état de circulation du métro un soir de réveil. Si tant est qu'il circule. Et effectivement, il doit attendre un long moment sur un quai désert, avant qu'une rame daigne arriver. Il est déjà 7h30 quand il descend à Mariatorget. Il monte en vitesse l'escalator et sort dans le Swedenborgsgatan, côté place Mariatorget. L'immeuble de Paul est censé se trouver quelque part sur la gauche. L'air est humide et froid, mais il n'y a pas encore de neige. Christina appelle ça l'hiver de Stockholm, car la neige qui tombe se transforme aussitôt en bouillasse. Le ciel est couvert. Il a l'air violet. Paul habite dans la Sankt-Paulskatan. Rasmus découvre que c'est tout près du Timi. Le fait est qu'il est passé devant l'immeuble la première fois qu'il allait au club. Il reconnaît l'affiche du PO sur l'armoire électrique juste à côté de la porte d'entrée. La caricature de Paul. En sortant de l'ascenseur au deuxième étage, il entend de la musique et un brouhaha dans l'appartement où une petite plaque en laiton indique Goldberg. Paul ouvre presque immédiatement après que Rasmus a sonné, le visage rouge et luisant, d'alcool et de chaleur. Rasmus, non mais j'hallucine, t'as pu venir, ça me fait tellement plaisir. Entre, bah entre, ne reste pas là à faire le pied de grue mon canard. Embarrassé, Rasmus lui tend la boîte d'Aladin pendant que Paul le tire dans le vestibule et lui plante d'office une bise mouillée et alcoolisée sur la bouche. Et t'as aussi apporté des chocolats mon cœur, mais comme c'est mignon. Peu rassuré, Rasmus lui emboîte le pas. Il se jette un rapide coup d'œil dans le miroir, passe la main sur ses cheveux ras, puis s'immobilise devant le seuil, étrangement mal à l'aise. Le séjour est décoré de grandes guirlandes vertes qui tombent du lustre au milieu de la pièce. De longs fils dorés et scintillants pendent aux fenêtres. Une multitude de petits pères Noël, kitsch, dont plusieurs entièrement nus, hormis le bonnet, croisent des anges, petits ou grands, ou nus, eux aussi. Et dans tous les coins, des chèvres de Noël en paille de toutes les tailles. Au fond de la pièce, trône un gigantesque sapin en plastique argenté, dans lequel clignotent des centaines de loupiottes rouges, bleues et jaunes. Quatre inconnus sont assis, ou à moitié allongés sur le canapé, et les fauteuils, autour d'une table basse. Paul frappe dans ses mains. « Mes amis, s'il vous plaît, je vous présente Rasmus, qui nous vient directement du Värmland. Et il a apporté des chocolats, lui. N'est-ce pas, Bengt, espèce de grosse vache ? Rasmus n'est pas arrivé les mains vides, lui. » Rasmus, voici Bengt, ici Rennes, et enfin Larsac et Seppo.
Un salut est lancé à l'unisson. Tournant la tête, Paul s'exclame. Ah, le voici enfin, Benjamin! Benjamin revient de la cuisine où il est allé chercher du sopalin pour éponger du champagne renversé. Il est vêtu de ses plus beaux vêtements. Son costume de service si naturel pour lui, mais qui le différencie des autres et le rend singulier, au sein de cette assemblée déjà singulière. À la seconde même où Benjamin aperçoit le nouveau venu, il s'arrête net. Immobile un instant, il acquiert la certitude que c'est vers cet endroit, cet instant, cette rencontre, vers ce garçon, que tous ses déplacements ont tendu. Il prend conscience que cet endroit n'a jamais cessé d'être sa destination. Peut-être croyait-il réellement faire du porte-à-porte pour apporter le témoignage de Jéhovah. En réalité, il cherchait uniquement ce garçon. Maintenant, il sait qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Il doit se pencher encore un peu plus en avant, basculer par-dessus bord et se laisser tomber. « Dis-moi, mon petit Parmelandais, est-ce que tu veux du vin chaud ?» demande Paul en allumant une blende jaune. « Oui, je veux bien. » réussit à articuler Rasmus. « Eh bien, on n'en a pas de vin chaud, » réplique Paul aussitôt. « On n'a que du champagne. Bengt, tu peux aller chercher un verre pour le poussin divin du Värmland ?» Malgré un soupir, Bengt va chercher un verre que Paul remplit de champagne. Ça déborde et ça dégouline. Il le tend à Rasmus tout en continuant son bavardage. « Du vin chaud, laisse-moi rire. De la pisse de bourriquet d'as où ils ont ajouté des raisins secs. Et après, soi-disant, c'est nous les pervers. » Il secoue la tête de consternation. « Allez, chin-chin, les filles !» Les hommes lèvent leurs verres et trinquent.
Alors, vous êtes toujours dans la revanche des hérissons sur GTFM 91.2 et on vient d'écouter « Ne suis jamais de larmes sans gants » et notre émission touche à sa fin.
Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu.
Merci à vous, gros merci à Élise pour son cadeau.
Et à bientôt sur GTFM.
À bientôt. Et on va vous laisser avec la chanson de Hautière, « Take me to the church ». Born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be.